Bonsoir.
Bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Eh bien, au sommaire de cette émission, nous avons normalement deux interviews, mais on a un tout petit problème pour rejoindre notre première invitée. Donc, je vais commencer à tranquillement parler du sujet dont on devait parler ensemble. Donc, notre invité, c'est Franck Sylvain. Franck Sylvain, il vient de lancer, mais on est mercredi 6 juin, et c'est aujourd'hui que sort son premier roman. Il vient de lancer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle l'atelier Acatombo. Et cet atelier Acatombo, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la littérature japonaise.
Comme le nom l'indique un petit peu d'ailleurs.
Akatombo. Oui, mais enfin bon, comme on n'est pas très spécialiste de l'Asie, ça pouvait être japonais ou d'autres. Voilà, donc on nous fait signe qu'on n'arrive pas à avoir Franck Sylvain. Donc Jacques, tu vas peut-être nous parler, tu peux peut-être commencer par nous faire une chronique de Christophe Host, je crois. Et puis on verra si jamais on peut l'avoir. C'est bon, eh bien voilà, c'est du direct, hein, on est en direct. Donc on va avoir le grand plaisir donc de recevoir Franck Sylvain. Bonsoir Franck.
Bonjour, bonsoir.
Voilà, on a juste deux petites minutes de retard, donc on est très content de vous accueillir pour que vous nous présentiez cette nouvelle maison d'édition. Le livre, le premier roman sort aujourd'hui, je ne m'abuse pas, c'est bien ça?
Oui, le lancement a été un petit peu décalé parce que les imprimeurs et tout ça ont fait qu'on va sortir, je pense, d'ici une dizaine de jours, mais on sort ce mois-ci tout à fait, oui.
Alors, donc, nouvelle maison d'édition, les ateliers Acatombo. Je crois que vous partagez la responsabilité avec votre femme, Dominique Sylvain, que l'on connaît bien en tant qu'écrivain en France.
Oui, tout à fait. En fait, Dominique s'occupe, de la partie texte et je m'occupe de la partie découverte et un peu de la partie traduction. Voilà.
Donc, aujourd'hui, ou il y a quelques jours, est sorti un roman noir. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre et me reprendre si je prononce mal les noms japonais. Donc, aujourd'hui sort un roman noir de Yuko Yuzuki.
Oui, tout à fait.
Le loup d'Hiroshima. Mais avant, on va dire quelques mots sur cette maison d'édition. Donc, quel est ce désir de nous faire partager cette culture du Japon? Donc, on sait que vous y avez séjourné, habité même pendant assez longtemps.
Oui, nous sommes allés, en fait, Dominique et moi-même, nous sommes allés au Japon pour la première fois en 1992-93 pour habiter. En fait, mes premiers voyages au Japon datent des années 1988-87. Il faut dire qu'on, Dominique et moi avons une relation pour le Japon qui remonte au moment où nous nous sommes connus, parce qu'en fait nous sommes connus dans un dojo d'arts martiaux japonais, et donc en fait on a dès le départ eu une sorte de relation avec le Japon, et donc nous y sommes allés pour la première fois en 92, nous y sommes restés 2-3 ans, nous avons voyagé de nouveau et nous y sommes retournés au début des années 2000 pour une période plus longue, 7 à 8 ans en fait.
Ce qui vous a permis de complètement maîtriser cette langue, puisque le livre dont je viens de parler, Le loup d'Hiroshima, c'est vous qui l'avez traduit avec Dominique.
Alors je crois que le japonais est malheureusement une de ces langues que l'on ne maîtrise jamais complètement en fait. C'est une sorte de voyage qui dure un petit peu toute l'existence pour les étrangers, mais aussi un petit peu pour les japonais. C'est une langue qui est d'une histoire très compliquée, puisqu'elle elle a des morceaux qui sont des morceaux purement japonais, elle a des morceaux qui sont des morceaux chinois, elle a des morceaux qui sont des morceaux plus européens. Et c'est une langue d'une grande complexité d'écriture. Elle a deux alphabets, elle a des signes. Donc on ne la maîtrise jamais complètement, mais je dirais qu'après 25 ans d'études, on finit par en être un petit peu plus proche qu'au départ, voilà.
Alors nous, on va se contenter d'expliquer un mot, c'est le mot Acatombo, c'est bien la libellule ?
Alors, en fait, Akka veut dire rouge en japonais, et Tombo veut dire la libellule. Les Japonais ont, un petit peu comme les Français, un goût très marqué pour le passage des saisons. Et en fait, la libellule rouge est une libellule, vous savez que les libellules ont une durée de vie très courte, et celle-ci éclot en octobre. Alors, l'été au Japon est très chaud, l'hiver est sec, un peu moins froid qu'en France, mais octobre est probablement une des périodes idéales au Japon pour se promener dans les jardins japonais. Donc, et aussi parce que la température n'est ni trop chaude ni trop froide, on peut en fait s'asseoir sur les tatamis, donc sur ces nattes de riz de fibres, et on peut lire. Et en fait, le mois d'octobre où sort la libellule rouge est une sorte de mois consacré à la lecture, et ça tombe assez bien puisqu'en fait en France le mois d'octobre est typiquement le mois de la rentrée littéraire, donc voilà.
Oui, puisque pendant un temps, même en octobre, c'était lire en fait, ça a abandonné, mais c'est bien dommage. Les Japonais lisent beaucoup.
Alors les Japonais lisent, les Japonais lisent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une tradition de la lecture au Japon. Parce que la langue est difficile, donc si vous ne le lisez pas, vous l'oubliez, c'est une de ces langues, si vous ne la lisez pas pendant un an ou deux ans, vous ne savez plus vraiment la lire, enfin d'une certaine façon. En particulier pour les caractères compliqués, et les Japonais ont également des moyens de transport. Ils utilisent le train depuis très longtemps, d'ailleurs le train ressort dans certains romans policiers, et en fait ces voyages en train ont toujours été depuis très très longtemps l'occasion de lire. Donc non seulement on lit chez soi, mais en plus on lit dans les transports en commun, parce que finalement l'usage de la voiture individuelle est assez rare au Japon pour les transports quotidiens.
Et donc, vous lancez cette maison d'édition, le premier est un polar, mais ça ne va pas être une maison d'édition sur des livres japonais qui seront spécifiquement des polars. On va découvrir un peu tous les genres littéraires, c'est cela ?
Oui, alors, pas vraiment tous les genres littéraires. Je crois qu'il y a au Japon, il y a une tradition, je vais tenter de dire, de la littérature... De distraction, la littérature de plaisir, je serais tenté de dire, mais une littérature de plaisir de haut niveau, c'est-à-dire que les Japonais font une sorte de distinction entre une littérature qu'on dit blanche en France, mais que les Japonais appellent pure, et qui est vraiment le domaine des gens dans les universités, des universitaires, des gens dans les revues littéraires. Mais en fait, les Japonais, dans la vie de tous les jours, consomment de la littérature de plaisir. Et c'est cette littérature de plaisir qui n'est pas vraiment traduite en français, parce que c'est difficile pour un professeur d'université de très haut niveau en France de traduire de la littérature qui elle-même n'est pas... de nature académique. Et donc en fait, quand on a pu commencer à lire en fait le japonais, quand on était au Japon, on a découvert une littérature d'une richesse extraordinaire. Et comme le Japon nous a beaucoup donné, à Dominique et moi, on essaye finalement par ce projet de donner aux Français un petit peu cette ouverture sur des littératures populaires de plaisir, mais en même temps de grande qualité.
Donc la littérature policière, le roman noir en tant que littérature justement populaire, donc va avoir une belle place dans cette édition. Donc le premier, oui. Le loup d'Hiroshima.
Alors, on va aussi faire de la science-fiction. Nous préparons pour la rentrée un roman de science-fiction.
Science-fiction.
Et nous allons aussi faire ce que les éditeurs français appellent de la littérature rose, c'est-à-dire de la littérature que l'on lit le soir, parfois dans les lits, dans les draps.
On attend ça avec impatience. Donc voilà. Ce premier, le loup d'Hiroshima.
C'est simple, parce qu'en fait, il y a énormément de japonaises qui écrivent justement cette littérature de plaisir, de la nuit. Donc ce sera le premier roman de littérature rose sera écrite par une japonaise, en fait.
Et donc, on revient au noir. Nous, on est quand même spécialisés dans la littérature noire. Le loup d'Hiroshima, on va y découvrir deux personnages principaux. Un jeune flic, Yoka, qui vient prendre son poste dans un commissariat d'un grand quartier d'Hiroshima. Et puis surtout, on va découvrir Shogo Ogami, qui est un inspecteur très respecté, mais plutôt controversé. Est-ce que vous pourriez nous le présenter un petit peu, ce personnage d'Ogami ?
Oui, alors déjà il faut présenter un peu la ville d'Hiroshima, qui est un peu le cadre du roman, parce que vous savez, Hiroshima a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. et assez complètement. Et en fait, ça a été un des endroits où tout a été reconstruit. C'est-à-dire que non seulement la ville a été reconstruite, mais les gens se sont reconstruits, et en particulier les bandits se sont reconstruits. Et la culture de la ville s'est reconstruite. Et pendant longtemps, Hiroshima a été, jusqu'au début des années 80-90, le théâtre de luttes assez rudes entre les différents gangs de Yakuza pour le contrôle de la région. Et donc, au milieu de ça, en fait, les policiers n'ont pas eu une vie très très facile parce que les liens à l'intérieur de la cité ont été à reconstruire. Et donc, on a vu émerger dans la préfecture d'Hiroshima, des policiers qui étaient à la fois des policiers, mais qui étaient également très proches des gangs de Yakuza, parce qu'en fait, le but du policier, c'est d'assurer la survie et le bien-être des citoyens ordinaires, et que, en fait, pour ça, pour assurer l'harmonie de la société ordinaire, en fait, les policiers sont toujours, mais un peu moins, mais étaient à l'époque, et le lieutenant Ogami en est l'exemple, était prêt à des choses qui n'étaient pas forcément à l'intérieur des règlements.
Et il a un lourd passé aussi, Ogami, ce qui explique certaines choses. Alors, vous avez parlé des gangs de Yakuza, donc ça, Yakuza, c'est un mot qu'on connaît bien, et on oui. part dans cette guerre des gangs où ces deux policiers, ainsi que plein d'autres, vont se retrouver un peu ballottés avec des événements, beaucoup de meurtres. On va pas raconter l'histoire, mais il y a vraiment ces actions-réactions, vengeance entre les gangs. Ce qui est très intéressant, et c'est ce qui fait un des sels de ce roman, c'est qu'on se retrouve dans une guerre des gangs, un petit peu comme dans certains films américains, comme dans certains livres américains, mais il y a vraiment une sociologie des codes qui sont propres au Japon, qui ont dû être d'ailleurs assez difficiles à traduire, parce que il y a des respects, des traditions qui sont, je pense, complètement inhérentes à ce pays et à ses traditions.
Oui, il y a une difficulté de tradition qui n'est pas propre à la littérature noire, qui existe également pour la littérature blanche. Par exemple, vous savez, quand on dit je ou quand on dit vous, ou quand on dit tu en français, on a tu et vous, on a deux niveaux, je dirais, pour s'adresser à quelqu'un. En japonais, on a probablement 10 ou 15 niveaux différents quand on s'adresse à quelqu'un, en fonction que la personne est plus âgée que vous, plus jeune que vous, plus haute que vous, plus jeune mais plus haut gradé à l'intérieur du gang ou à l'intérieur de la police. Vous savez, on ajoute parfois le suffixe « san » au nom des gens quand on les interpelle, mais il y a, encore une fois, il y a beaucoup de suffixes différents. Et donc, il y a un niveau de langue, il y a des niveaux d'adresse qui sont effectivement relativement difficiles à traduire. Et c'est pour ça que, je dirais, l'expérience de Dominique en termes d'écrivain de romans policiers a été précise, de façon à ce que même si l'on ne dispose pas de la même variété, c'est-à-dire qu'on a que « tu et vous » en français, on a essayé de rendre autant que possible ces différences de niveau à l'intérieur des niveaux de langue en français. Donc on a utilisé des niveaux de langue très différents. Dominique a essentiellement utilisé des niveaux de langue très différents pour rendre les différents niveaux de code verbal. Alors la société japonaise, hein, c'est pas seulement la société Yakuza, est très une société très verticale.
Au commissariat aussi, excusez-moi.
Très rigoureuse de cette verticalité, en fait.
Au commissariat, il y a aussi beaucoup, on voit ce jeune Nyoka qui tous les matins doit faire attention parce que c'est lui qui doit servir le thé, il doit savoir combien il y a de sucre, s'il faut du lait, à combien doit être la température de l'eau, et sinon, carrément, il a droit à des baffes, hein. On le corrige un petit peu, enfin des tapes derrière la tête qui n'ont pas l'air très agréables. Vous parliez de la traduction, c'est très intéressant. Donc Dominique Sylvain a plus œuvré, je dirais, dans la partie française, mais vous deux aussi, ce qui était très important, je pense, c'est d'avoir vécu et d'avoir vraiment vu ces voies hiérarchiques, cette façon dont la société est organisée, parce que je pense qu'un Français qui apprendrait le japonais, en France aurait peut-être du mal avec certaines tournures.
Oui, c'est, je crois que c'est non seulement des tournures, mais c'est également des expressions corporelles, c'est-à-dire que on a des images. Lorsqu'on lit un roman japonais, on a vu des situations similaires, on les retrouve parfois dans la pratique des arts martiaux, on a vu des situations similaires où il faut s'adresser à des personnes relativement haut gradées, où des jeunes s'adressent à vous et vous montrent des signes de respect, et il y a un langage qui non seulement est un langage verbal, mais qui est aussi un langage du corps, c'est-à-dire la façon dont on s'incline plus ou moins profondément en fonction du rang de la personne, et tout ça, on a des images, comme on a vécu 10-15 ans au Japon, on a ces images, et donc lorsque le texte arrive, non seulement on a le contenu du texte, mais vient tout de suite ces images. Par exemple, les Japonais sont assez souvent dans un texte japonais, vous verrez qu'on dit que les yeux de quelqu'un s'arrondissent. Et quand les yeux de quelqu'un s'arrondissent, en fait, ça veut dire que la personne est surprise, c'est-à-dire il se passe quelque chose d'un peu inattendu. Donc on voit tout à fait ce visage où ses yeux deviennent tout ronds, hein, parce que les yeux japonais ne sont pas ronds, mais les yeux deviennent tout ronds de surprise. Et ça, effectivement, si on n'a pas vécu sur place, c'est très difficile à rendre. Et je crois que le fait d'avoir vécu plus de 10 ans, pratiquement 15 ans au Japon, en différents morceaux, ça sert beaucoup dans la traduction.
Alors c'est un roman qui est quand même un roman à milieu d'hommes, entre les gens au commissariat. Par exemple, je remarque que, et c'est un hasard ou pas du roman, il n'y a pas de flic-femme.
Alors, il y a, oui, parce qu'historiquement, en fait, les policiers féminins n'étaient pas dans ces endroits difficiles. Il y a une tradition de la police féminine au Japon, elle existe. Et d'ailleurs, un des romans que nous allons traduire, enfin que nous avons traduit, mais que nous allons publier à l'automne, aura pour personnage principal une policière féminine. Et en fait, je me souviens, il y a très très longtemps, la première fois que je vivais à Tokyo, j'ai eu un accident de circulation, et en fait j'ai eu un mauvais accident de circulation parce que j'ai eu un accident de circulation avec une voiture de police, et en fait la personne qui était à l'intérieur de la voiture était une femme, et l'interrogatoire que j'ai subi, hein, pourquoi vous avez fait un accident, etc., a été conduit essentiellement par des femmes au commissariat de Roppongi. Donc il y a une tradition de la police féminine. Il est clair qu'à Hiroshima, où on était au milieu d'une guerre des gangs, où le contact physique avec les Yakuza était quasiment quotidien. Je pense que le ministère central de la police a probablement évité, ou à l'époque, d'envoyer des femmes à la bataille quelque part localement, mais c'est pas général. Il y a des femmes policières au Japon, à Tokyo en particulier, oui.
Donc on va malheureusement arriver au terme de cette émission. Si on veut un petit peu résumer ce livre, si je dis que c'est un roman d'initiation avec tous les codes du polar et tout, je trouve qu'il y a une passation quand même entre Yokai,
oui,
et Ogami.
Il y a la transmission d'une expérience, et il y a ce rapport que les Japonais appellent de sensei à deshi, c'est-à-dire de professeur à élève ou de professeur à disciple. Et Shioka est un disciple du lieutenant Ogami. Et d'ailleurs, Yuko Yuzuki vient de publier il y a 15 jours, j'étais à Tokyo il y a 15 jours, elle vient de publier un nouveau roman. Et dans ce nouveau roman, c'est Shioka qui devient le personnage principal, où il applique finalement les enseignements de son sensei, de son professeur. Donc effectivement, il y a une transmission d'un savoir, d'une expérience qui va au-delà de la transmission livresque, qui est vraiment une transmission de tous les jours. Regarde ce que je fais et apprends de ce que je fais.
Et apprends à vivre aussi. Alors juste une dernière question, il nous reste quelques secondes. Il me semble bien que ce roman vient d'être... Il y a un film qui vient de sortir, tiré de ce roman.
Le film est sorti à la mi-mai à Tokyo. J'étais à la première. C'est un film extraordinaire, enfin, qui a été très très bien reçu, que j'ai beaucoup aimé. Il est un petit peu plus cruel que le livre. Hein. Il y a certains détails que je ne dévoilerai pas dans le film et dans le livre, qui ont été amplifiés par le réalisateur. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été réalisé par la Toei, qui est une des grandes firmes de cinéma, et qui était la grande firme de cinéma des films de Yakuza dans les années 70-80. Donc là, encore une fois, il y a eu une passation des anciens réalisateurs vers le nouveau réalisateur.
Mais écoutez, Franck, Sylvain, merci beaucoup. Donc, on va découvrir cette maison d'édition et surtout ce premier livre. Donc, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Et nous, on se retrouve dans la prochaine partie d'émission.